Radio Okapi.
Le journal, grâce à Mzati Masanzi. Les athlètes qui viendront pour les 9e Jeux de la Francophonie seront bien accueillis et les Jeux vont se dérouler dans des conditions modernes. Déclaration de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue de la visite des sites devant abriter ces Jeux hier jeudi à Kinshasa. Assassinat du député national et ancien ministre des Transports Chérubin Okende. Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi réclame une enquête indépendante à laquelle devront être associés notamment les experts des pays de la communauté internationale. Cependant, ces partis politiques fustigent la dernière sortie médiatique du procureur général près la Cour de cassation au mépris des enquêtes en cours. Le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, administrateur du territoire d'Awanitouri, est l'invité de ce journal. Il va nous parler de la réunion conjointe qui s'est tenue le week-end dernier à Ingbokolo entre les autorités territoriales congolaises d'Aru et celles du district de Murobu, au sud-soudan, sur la gestion des questions sécuritaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que les athlètes qui vont venir seront bien accueillis et que les Jeux vont se dérouler dans des conditions modernes. Ces mots sont du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, à l'issue de la visite des sites devant abriter les 9e Jeux de la Francophonie, hier jeudi à Kinshasa. Les endroits visités sont le Stade des Martyrs, le Stade Tata Raphaël et l'Université de Kinshasa. On fait partie de la délégation, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Sports et quelques ambassadeurs. Même si les travaux ne sont pas encore terminés dans tous les sites, la délégation d'y être satisfaite du niveau atteint. Le point avec Fulbert Balolagi.
Stade, chambre, gymnase, terrain de différentes disciplines, salles, toutes les infrastructures ont été visitées. À l'issue de la visite, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a expliqué aux membres de la délégation que la fraternité est importante pour les pays francophones afin de participer à ces Jeux. De son côté, Patrick Mouyaya dit que la RDC a fourni les efforts nécessaires pour organiser ces Jeux.
Tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au Stade de Martyrs, au Stade Tata Raphaël ou à l'Unikin, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme, et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que le jeu pourra être organisé dans les conditions modernes.
Un des ingénieurs rassure les athlètes pour leurs conditions d'hébergement.
Non, les athlètes n'ont aucun souci à se faire. Nous sommes là pour ça. Les petites imperfections ne peuvent peut-être pas manquer dans ce qu'on fait, on est des hommes, mais la situation est sous contrôle. Qu'ils se rassurent, il n'y a rien à craindre.
Joey Leko, responsable de la restauration des athlètes à l'université de Kinshasa, rassure que les athlètes sont servis sans problème.
Pour l'instant, on est en train de nourrir plus de 350 athlètes déjà. Déjeuner, petit déjeuner et le soir déjà. Et par rapport à l'organisation, tout est bien.
La remise des infrastructures est prévue ce dimanche 23 juillet.
Assassinat du député national et ancien ministre des Transports Chérubin Okende. Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi réclame une enquête indépendante à laquelle devront être associés notamment les experts des pays de la communauté internationale. Le secrétaire général de ce parti de l'opposition l'a déclaré hier jeudi ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Dieudonné Bolenge Tenge a aussi fustigé la dernière sortie médiatique du procureur général près la Cour de cassation au mépris des enquêtes en cours. Il a aussi rejeté les allégations selon lesquelles Chérubin Okende, porte-parole d'Ensemble pour la République, n'entretenait plus avant sa mort des bonnes relations avec Moïse Katumbi. On écoute Dieudonné Bolenge Tenge au micro de Junior Ika.
En ce qui nous concerne, nous avons exprimé le vœu d'une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Notre président national, arrivé à Kinshasa pour les deuils, a entrepris des contacts à cet effet. Pendant que tout le monde attend la mise en place de cette commission d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde Mambou, nous surprend par une nouvelle conférence de presse. Hier mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende Senga. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur le garde du corps du défunt, dont les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Le procureur général Firmin Vonde affirme également sur la base de son enquête que c'est une balle sortie de l'arme et retrouvée dans la Jeep à côté du corps qui aurait tué le député Chérubin Okende. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. L'École nationale d'administration de la RDC ENA a lancé hier le recrutement des candidats pour la 9e promotion de cette haute école. Créée en 2014 et logée au ministère de la fonction publique à Kinshasa, cette école de formation des dirigeants et cadres de l'administration de la RDC a formé à six jours plusieurs centaines de jeunes cadres congolais. Le dépôt des candidatures s'est fait uniquement en ligne et dure 10 jours seulement, soit de ce jeudi jusqu'au 30 de ce mois de juillet. Les autres conditions de recrutement à l'ENA RDC avec vous, Dona Madimba.
Le candidat ou la candidate doit être de nationalité congolaise, âgé de tout au plus 35 ans, autrement dit, n'étant pas né avant 1988, ayant au moins le niveau d'études Bac plus 5, c'est-à-dire être diplômé d'université après 5 années d'études universitaires et ayant rédigé une lettre de motivation accompagnée d'une copie de passeport national. Les autres documents que le candidat ou la candidate à l'ENA RDC doit fournir pour son admission dans cette école sont une copie scannée du diplôme Bac plus 5 ou son équivalent, le relevé des cotes de la dernière année, une copie scannée du certificat d'aptitude physique datant d'au moins 3 mois à la date du lancement du concours et des livré par un hôpital public, une copie du curriculum vitae avec photo passeport et ou une copie scannée de l'acte d'admission sous statut si fonctionnaire. Le dépôt des candidatures se fait uniquement sur internet sur le site www.ena.cd et se clôture dans 10 jours.
Dona Madimba sur la fréquence de la paix. Le forum RDC Royaume-Uni sur la transition énergétique et les investissements aura lieu à Londres du 5 au 9 septembre prochain. Au cœur de ces assises, le projet gigantesque de l'industrie des batteries initié par la RDC dans l'objectif de changer les économies des pays africains. L'annonce a été faite hier à Kinshasa au Memling Hotel par le ministre de l'Industrie à l'occasion du lancement de l'agenda de l'avant-événement de ce grand rendez-vous d'affaires. On écoute les explications de Julien Paluku Kaongia au micro de Samba Dimouki.
L'objectif étant de mener un plaidoyer en faveur des projets qui soutiennent le climat, mais aussi mobiliser les investissements européens en général et britanniques en particulier pour la République démocratique du Congo. En effet, ces assises visent à engager les décideurs et les acteurs économiques du Royaume-Uni dans une dynamique de financement de projets innovants tendant à limiter l'effet du réchauffement climatique en facilitant l'exploitation et la promotion des énergies vertes, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra donc que notre pays développe un projet ambitieux avec la République de la Zambie relatif à la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques. Et qu'au niveau du gouvernement de la République, nous nous déployons à mobiliser les partenaires techniques et financiers et attirer les investisseurs par des mesures incitatives qui concourent autant au bon climat des affaires dans notre pays.
De son côté, Jean Bosco Kanyemesha, directeur général de King Strategy, partenaire du ministère de l'Industrie dans l'organisation de ces forums économiques, a appelé les opérateurs économiques congolais et britanniques à se mutualiser pour promouvoir l'économie décarbonée. Direction la province du Maniema, où la société des microfinances Gulgal SCA, agence de Kindu, se félicite des résultats de ses activités une année après son existence. Son chef d'agence intérimaire l'a déclaré hier jeudi à l'occasion justement de la célébration de ses premiers anniversaires. Alunga Ferdinand parle de 940 000 dollars en cours octroyés comme crédit aux opérateurs économiques de Kindu pour leurs activités économiques. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
À part les épargnes et crédits, la société Gilgal SA donne aussi des crédits agricoles, crédits verts, c'est-à-dire l'énergie solaire et la marmite écologique. Son chef d'agence intérimaire, Alunga Ferdinand, s'en réjouit.
La société Gilgal à Kindu a déjà eu beaucoup d'épargne des gens qui viennent déposer leur argent ici. Nous avons aussi des gens à qui nous avons octroyé des crédits, que ce soit les crédits AGER, que ce soit les crédits agricoles ou kit solaire. En tout cas, nous l'avons déjà fait et surtout, nous sommes fiers aujourd'hui de révolutionner un peu la communauté de Kindu par rapport à l'éducation financière.
Pour cette première année, les clients de Gilgal ont donné de bons témoignages de cette entreprise. C'est le cas de Pierre Magnota Bin Magnota.
Nous sommes flattés parce que la société instaure le civisme, l'éducation financière à ses clients parce qu'auparavant c'était difficile de trouver un jeune garçon de mon âge qui pensait à épargner.
Pour marquer d'un cachet spécial cet événement, une caravane a été organisée dans les grands acteurs de Kindu pour faire connaître la société Gilgal aux gens. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Par ailleurs, au Nord Kivu, la guerre du M23 a affecté tous les circuits économiques en territoire de Rutshuru en rendant la vie de la population intenable. C'est ce qu'affirment plusieurs témoignages recueillis dans la région. À cause de la guerre qui perdure, ces territoires enregistrent une baisse sensible de la production agropastorale, le chômage et il est difficile de s'approvisionner en produits de première nécessité car le trafic est paralysé depuis plus d'une année entre Rutshuru et Beni Butembo. Sifa Maguru nous en dit plus dans cette dernière livraison de cette série de reportages.
Nous vivons l'Holocauste dans l'Omerta. C'est l'expression utilisée par un habitant de Rutshuru à qui nous avons posé la question de savoir comment vivent-ils ces derniers temps. La population qui est restée dans le Rutshuru traverse un calvaire sur le plan économique, ont-ils affirmé. Les échanges commerciaux sont paralysés parce qu'il n'y a pas de voie d'écoulement des produits vivriers. Ce qui choque le plus est que la production agricole qui était encore dans les champs, notamment le maïs, le sorgho, le soya et autres, sont actuellement acheminés en Ouganda et au Rwanda pour être transformés et revenir en RDC à un prix très élevé. En outre, ce sont les acheteurs ougandais et rwandais qui fixent les prix des produits agricoles sur le marché au détriment des agriculteurs. Le petit commerce est également paralysé et dominé par les produits venant de ces deux pays. Entre Kiwanja et Nyakakoma, on enregistre au moins 11 barrières illégales tenues par des hommes armés qui font payer à chaque passage, tandis que depuis Goma jusqu'à Kanyabayonga, on en compte également une vingtaine. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa pour parler de la clôture hier du séminaire international sur la médiation et la négociation dans les projets Femmes Unies contre les violences sexuelles. Selon la directrice de la Fondation Femmes pour l'Afrique, il est question de mettre les femmes au cœur de l'action de la recherche et de la paix pour bâtir un monde solidaire. Signalons que ce projet est développé par la Fondation Pelagie Mouigiroua, financée par le gouvernement du Pays-Bas en partenariat avec l'Agence des Nations Unies, Alliance des Civilisations et la Fondation Femmes pour l'Afrique. Je vous propose d'écouter Charles Tenenbaum, intervenant dans cette activité, qui livre ses impressions et ses attentes au micro des Merveilles Assani.
C'est d'abord les participantes qui ont partagé de leur expérience dans leurs pays respectifs, dans le contexte de conflits, des populations civiles, des sociétés civiles et de leur expérience de médiation, de gestion des conflits. Il y a une cinquantaine de femmes qui se sont rassemblées ici et qui cherchent d'abord à trouver les moyens de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître, de constituer un réseau qui permet de se mobiliser quand le besoin se fait sentir, de venir en aide aux unes et aux autres, de partager non seulement des expériences, mais aussi de l'expertise sur ces questions de médiation, de gestion des conflits, d'analyse des conflits aussi.
Pandasta, à Butembo, au Nord Kivu, le Parlement d'enfants dénonce la présence des collines d'immondices le long de l'artère principale de la ville. Pire, des enfants y passent la journée à ramasser des flacons usagés et des métaux parfois dangereux. Il y a quelques jours, un enfant a perdu la vie après avoir touché un fil électrique sous ses immondices. Le Parlement d'enfants de Butembo invite les parents à bien encadrer leurs enfants, surtout en cette période des vacances scolaires. Il demande également aux autorités de la ville de mettre en place une vraie politique de gestion des immondices à Butembo. Regen Banga est président du Parlement d'enfants de Butembo Lubero, explique au micro de Marc Marofimbo.
Les déchets qui se retrouvent d'ici et là au niveau de la ville, c'est un grand défi pour toute la ville de Butembo, qui ne cause pas seulement problème aux grandes personnes, mais aussi à ces enfants qui ne sont pas vraiment encadrés, qui trouvent bon aller chercher quelques déchets ou quelques flacons au niveau de ces poubelles. C'est un grand danger pour tous les enfants, avec beaucoup de risques et de maladies pour les enfants. Ce qui nous amène à lancer un grand message pour d'abord le parent, à être vraiment responsable, à savoir que laisser les enfants errer dans la rue, et s'exposer l'enfant à toutes sortes de maladies, à tout ce qui est mauvais qui peut arriver dans la rue, et aussi la bonne gestion de déchets ou des poubelles, c'est une éducation que les parents doivent offrir à leurs enfants. Mais le grand message revient aux autorités urbaines qui ont dans leur responsabilité la gestion de la ville, de faire de leur mieux pour que ces déchets ne puissent plus continuer à être là, car ça a beaucoup de conséquences sur la vie de toute la population et plus particulièrement sur la vie des enfants, d'autant puisque ils ont une santé très fragile et sensible à tout ce qui est microbes qui peut arriver à ces niveaux-là.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les députés ont adopté hier le projet de révision de la Constitution qui assouplit le système de parrainage nécessaire pour participer à la présidentielle de février 2024. Le second projet sur la table prévoit la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et son remplacement par un parquet financier.
L'invité.
Il s'agit du commissaire supérieur principal Richard Mbambi, administrateur du territoire d'Aru en Ituri. Il s'exprime sur la réunion conjointe qui s'est tenue le week-end dernier à Ingbokolo, dans la chefferie des Zaki du côté de la RDC, entre les autorités territoriales congolaises d'Aru et celles du district de Murobu, au Soudan du Sud. Objectif, renforcer leurs relations bilatérales pour la bonne gestion des questions sécuritaires. Le commissaire supérieur principal Richard Mbambi s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur l'administrateur du territoire d'Aru, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quoi retenir de la réunion bilatérale avec vos voisins du district de Morobu?
Vous allez comprendre que le milieu étant ce qu'il est, nous sommes obligés d'être en contact permanent avec nos voisins pour maintenir la paix, les bonnes relations qui doivent exister et qui doivent persister. Mais ce que vous devez retenir du côté de pour la journée du 15 juillet passé, c'est qu'à la suite de plusieurs incursions que nous avons connues depuis 2018, qui se sont calmées après la réunion bilatérale que son excellence monsieur le gouverneur militaire a eu avec les deux pays, séparément d'ailleurs, nous avons encore constaté que le 6 janvier 2023 et le 9 juillet, il y a eu encore incursion. Et c'est pourquoi j'avais demandé à ce qu'on puisse se voir avec nos amis sud-soudanais du district de Morobu.
Alors, monsieur l'administrateur, qu'est-ce que vous avez pris comme décision à la fin de votre rencontre?
À la fin, nous nous sommes entendus que décidément, quand il y a un fait, il faut qu'on avise, qu'on s'appelle directement. Parce que bon, nous, de notre côté, nous avons constaté que, bon, excusez-moi, mais on a l'impression que nos amis n'ont pas le contrôle de tout le monde, quoi. Alors, nous nous sommes dit qu'à chaque fois qu'il y aura encore une question, il faut que nous puissions appeler nos amis. Donc, c'était le point central. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, on devra s'appeler pour qu'ils fassent en sorte que cela ne puisse pas se produire. Qu'est-ce qui se produit souvent? Ce sont les exécutions commises par les hommes en armes. Souvent, ce sont des SSPDF, c'est vrai. Ils disent, non, ce sont des rebelles nazes. Rarement, les rebelles nous attaquent. Mais ceux qui attaquent souvent sont en uniforme de l'armée régulière. Et donc, nous sommes entendus que chaque fois qu'il y aura un fait, il faut qu'on s'appelle pour qu'il n'y ait plus d'exécutions à répétition. Voilà un peu ce qui s'est passé.
Après votre rencontre d'Imbokolo, monsieur l'administrateur, est-ce que vous avez déjà enregistré encore d'autres incursions des hommes en armes venus du Soudan du Sud?
Malheureusement, je le répète, il y a de cela, je crois que nous sommes aujourd'hui, vendredi, jeudi, mardi, il y a encore, entre lundi, mardi, il y a encore une question. On les a appelés, ils disent non, ce sont des nazes, tout ça. Bon, ce que nous devons faire, en principe, c'est renforcer l'armée à la frontière, un point.
Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette résurgence d'incursion des hommes en armes à provenance du Soudan du Sud vers la RDC, principalement dans les territoires d'Aru?
Nous sommes des frontaliers, nous avons fait ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire appeler nos amis. Nous parlons, nous bavardons. Souvent, ils viennent, quand on les appelle, ils viennent, il n'y a pas de problème. Bon, nous avons des difficultés pour aller là-bas. Et pour eux, ça, je ne sais pas. Mais chaque fois qu'on les appelle, ils viennent rapidement. Que ce soit du côté de l'Ouganda. Et d'ailleurs, avant que je fasse la réunion de samedi 15 avec les Sud-Soudanais à Morobu, j'en avais fait déjà le 13 avec les Ougandais de Maradja. Ils sont venus chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais ils ont la facilité de venir en bavard.
On peut estimer à combien le nombre d'incursions déjà enregistrées des hommes armés en provenance du Soudan du Sud vers la RDC, principalement dans les territoires d'Aru?
Non, mais depuis 2018 jusqu'à ce que son excellence, monsieur le gouverneur militaire, tienne une réunion bilatérale avec les deux pays, pas ensemble, hein, séparément, il y a eu beaucoup d'incursions, c'est dans un document. Depuis la réunion de mars 2022, les incursions avaient pratiquement disparu et avaient pratiquement cessé. Mais malheureusement, le 6 janvier 2023, on en a connu, on a bavardé avec eux, et puis le début juillet ici, on en a encore commis, c'est ce qui a fait finalement que je puisse les appeler et que nous puissions bavarder.
À vous entendre parler, monsieur l'administrateur, n'êtes-vous pas optimiste de la bonne volonté des vos partenaires qui sont les autorités du Soudan du Sud?
Vous savez, nous avons 9 voisins et Aru à lui seul a 2 voisins. Vous comprendrez la situation au Sud-Soudan, comment ça se présente.
Monsieur l'administrateur du territoire d'Aru, je vous remercie.
Merci mon frère.
Notre invité Richard Mbambi, l'administrateur du territoire d'Arwanitouri, est interrogé par Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de ce radio-journal coordonné et supervisé par Alain Rungmouchins. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix et très bonne suite de la matinale avec Jean-Marc Ematouaki, Mofelele, Dijano.